Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, les versets 1 à 22, donc tout le chapitre. Or, Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'arrêtèrent, car les sources de l'abîme et les bondes des cieux avaient été refermées et la pluie des cieux avait été retenue. Et au bout de 150 jours, les eaux se retirèrent sans interruption de dessus la terre et diminuèrent. Et le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux allèrent en diminuant de plus en plus jusqu'au 10e mois. Et au premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes se montrèrent. Et il arriva, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Et il lâcha le corbeau qui sortit allant et revenant jusqu'à ce que les eaux se fussent desséchées sur la terre. Il lâcha aussi d'avec soi un pigeon pour voir si les eaux étaient allégées sur la terre. Alors, on sait dans nos versions, normalement, ils mettent le mot colombe, mais pas grave. Verset 9. Mais le pigeon ne trouva pas sur quoi poser la plante de son pied, retourna à lui dans l'arche. Car les eaux étaient sur toute la terre, et Noé avança sa main et le reprit, et le retira à soi dans l'arche. Et quand il eut entendu encore cet autre jour, il lâcha encore le pigeon hors de l'arche. Et sur le soir, le pigeon revint à lui, et voici, il avait dans son bec une feuille d'olivier qu'il avait arrachée. Et Noé connut que les eaux étaient diminuées de dessus la terre. Et il attendit encore sept autres jours, puis il lâcha le pigeon qui ne retourna plus à lui. Et il arriva qu'en l'an 601 de l'âge de Noé, au premier jour du premier mois, les eaux se furent desséchées de dessus la terre. Et Noé, ôtant la couverture de l'arche, regarda, et voici, la surface de la terre se séchait. Et au 27e jour du second mois, la terre fut sèche. Puis Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi toutes les bêtes qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des bêtes à quatre pieds, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils peuplent en abondance la terre et qu'ils foisonnent et multiplient sur la terre. » Noé donc sortit, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Toutes les bêtes à quatre pieds, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête nette et de tout oiseau net, et en offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur d'apaisement, et dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à l'occasion des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse, et je ne frapperai plus toute chose vivante comme j'ai fait. Mais tant que la terre sera, les semailles et les moissons, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Le Seigneur est au contrôle ». Mais on va demander la bénédiction de Dieu pour qu'il nous fasse saisir le sens et appliquer ça dans nos vies. Notre Dieu, c'est une joie que d'être en ta présence en ce jour que toi-même tu as institué, Seigneur, pour ton adoration, pour notre repos également, pour notre édification. Alors, notre Dieu, ce matin, je pense que le chapitre 8 de la Genèse est particulièrement approprié pour élever nos cœurs jusqu'à toi et voir beaucoup de tes attributs se manifester à l'intérieur de ce chapitre-là. Seigneur, ouvre nos intelligences. Ton esprit nous ouvre l'intelligence, le cœur et toute la compréhension pour qu'on puisse saisir le message que tu veux nous dire, les principes qu'on se doit d'apprendre et d'appliquer dans notre vie de tous les jours. On te demande cela en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, le Seigneur est au contrôle. On entend souvent cette expression-là. Le Seigneur est au contrôle. Mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qui contrôle? Comment il le contrôle? Et pourquoi le contrôle-t-il? Alors, j'ai voulu aller dans notre confession de foi. C'est la confession de foi. On dit qu'on y croit, on dit qu'on y adhère. Bien sûr, les Écritures et la confession de foi nous parlent de ce phénomène, de cette affirmation biblique que Dieu est au contrôle de toutes choses. On a ça dans le paragraphe 1 du chapitre 5 qui s'intitule « La providence de Dieu ». La confession de foi baptiste de Londres de 1689, ça va nous donner, bien sûr, si on va avoir une idée globale de l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur le concept de providence, il faut lire les 7 chapitres, il faut les étudier et il faut vraiment méditer. Des fois, on utilise des mots à tort à travers, mais on se doit parfois de les préciser et de vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par cela. Alors, je vais lire simplement le premier paragraphe. Je pense qu'il en dit très long, mais on pourrait lire les 6 autres aussi, mais c'est pas le but ce matin d'étudier la confession de foi. C'est juste de voir que le concept que Dieu te contrôle de tout ce qui se déroule sur la terre, c'est un concept vraiment biblique. Alors, ça dit dans le paragraphe 1, « Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes ou plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins, au pluriel, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. » Alors, on pourrait passer beaucoup de temps juste avec le premier paragraphe. On pourrait faire 2, 3, 4 sermons et avec les autres paragraphes également. La doctrine de la providence, on a fait ici, je pense qu'on a fait, je ne me trompe pas, une leçon, à peu près une dizaine de leçons. Mais c'est inépuisable, ça aussi, c'est un sujet très, très intéressant de savoir que tout ce qui se déroule sur la terre, peu importe à quel niveau, que ce soit pour les petites choses ou pour les grandes choses, ça a été décrété de Dieu et c'est le plan de Dieu qui se déroule. Il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Très, très rassurant. Alors, on constate dans ce paragraphe-là que le Seigneur exerce son contrôle absolu sur toutes les créatures et sur toutes les choses. On va voir dans le chapitre 8 que ça donne vraiment. Le Seigneur avait décidé qu'il détruisait les hommes, détruisait les animaux, excepté ceux qui seraient dans l'arche. Et ça prend une puissance extraordinaire pour faire ça, remplir la terre d'eau jusqu'à 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. À quelque part, ça prend vraiment une puissance extraordinaire. Alors, il y a un contrôle absolu. On va voir dans le déroulement du chapitre, il a fait arrêter la pluie, il a refermé la croûte terrestre, et on va voir tout cela, ça demande, des fois c'est parce qu'on ne s'arrête pas à imaginer la quantité de puissance que ça peut demander pour faire de pareilles choses. Et alors ça nous révèle un caractère, un aspect, un attribut de Dieu. Et quand on l'examine comme il faut et qu'on réfléchit, qu'on médite, bien là on ne peut pas faire autrement qu'adorer. Wow! L'adoration c'est vraiment des grands wow qui se répète presque infiniment. Le mot « providence », c'est intéressant de voir. Le mot « pro » veut dire « devant ». Et le mot « vidéo » veut dire « voir ». Alors, pourquoi le Seigneur voit devant? Pour une raison bien simple, qu'il peut savoir tout ce qui va se passer de tous les siècles à partir du début jusqu'à la fin. C'est parce que c'est lui qui l'a décrété. Ça se déroule, mais sans qu'il soit responsable du péché. Les péchés, c'est les hommes qui les accomplissent, non pas lui-même. Mais les péchés sont inclus dans son décret. Mais c'est l'homme qui est responsable et non pas Dieu lui-même. Et il y a une autre chose qui est mentionnée dans le paragraphe, c'est que toute chose contribue à la gloire divine. Dieu ne fait rien sur la terre, ni dans les grandes choses, ni dans les petites choses, ni dans la vie d'une église, ni dans la vie d'un individu, qui n'ait pas pour but sa gloire. Peu importe ce qu'on vit, si on vit, on vit de la douleur, on vit du malheur, on vit des bénédictions, on vit des choses plaisantes, on vit des choses déplaisantes, Dieu les a inclus dans nos vies. Et tout cela, ça a des buts sages, comme ça disait, très sage et très saint. Ça a pour but de nous modeler, de nous transformer en la ressemblance de Jésus-Christ. Et on va voir Noé qui obéit au Seigneur, et on va voir que quand il y a obéissance au Seigneur, il va récolter les fruits qui vont avec. Et quand on remarque, quand il arrive à la fin du verset du chapitre 8, qu'est-ce que Noé fait instinctivement? Après qu'il a atterri, après qu'il a eu sorti, adoration. Nous, quand on reçoit, quand on est conscient de la grâce de Dieu dans nos vies, ben le dimanche, c'est le jour du Seigneur. La moindre des choses qu'on peut faire, c'est d'être présent à nos cultes pour exprimer à Dieu notre adoration, notre gratitude, notre amour et notre joie d'avoir été libéré de tout cela. Parce que sans doute, j'imagine Noé sortir de l'arche, il a dû voir l'ampleur, le gigantisme de l'œuvre que le Seigneur avait accomplie et tout ce que ça l'avait fait sur la terre. Il a dû voir, waouh, c'est à ça que j'ai échappé. Il a dû, très certainement, et ça l'a eu pour effet qu'il a eu envie de perpétuer le sacrifice qui existait déjà dans la mentalité des anciens. Le sacrifice, bien sûr, pointait vers le sacrifice de Christ, tout cela. Alors, bien sûr, tout le chapitre 8 illustre ces vérités-là qu'on vient de mentionner. Alors, le Seigneur est au contrôle dans sa création, dans les versets 1 à 5. Le verset 1a, la première partie du verset 1, va nous dire que Dieu est au contrôle dans sa création par des actes de grâce. C'est intéressant. On le voit pas dans les textes, dans le texte en français. Souvent, on voit Dieu, on voit l'Éternel, mais on ne fait pas nécessairement une réflexion pourquoi il y a deux mots différents pour exprimer la même idée. Alors ici, dans le verset 1a, la première partie, Dieu se souvint. Le mot Dieu, c'est le mot Elohim. Et pourquoi le Seigneur... on dit que les Écritures, toute Écriture est inspirée de Dieu, chaque mot est inspiré, son ordre, sa place. Pourquoi il utilise un mot, puis un petit peu plus loin, il va utiliser un autre mot? Il va utiliser Elohim à un endroit, il va utiliser Jéhovah à l'autre place. C'est significatif. Elohim, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu Trinitaire, c'est le Dieu dans sa relation avec l'ensemble de ses créatures. Alors ici, on dit, Elohim se souvient de Noé. Est-ce qu'on est en train de dire que Dieu a fait ça, puis là, à un moment donné, il s'est mis à faire d'autres choses? Puis là, d'un coup, il s'est dit, « Ah! J'ai oublié Noé! » C'est pas ça que ça veut dire du tout, là. Dieu n'oublie jamais. Alors, le mot traduit par « Dieu » dans le verset 1, c'est vraiment le mot hébreu « Elohim ». Il fait référence à Dieu dans sa plus universelle relation avec l'ensemble de ses créatures. Jéhovah, c'est souvent plus... Dieu dans sa relation avec son peuple, avec les siens, ses élus. C'est différent. Alors Dieu ici se souvient pas juste de Noé, il se souvient des animaux, tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Alors l'expression « se souvient », c'est vraiment, en théologie on appelle ça un anthropomorphisme, donc c'est de prêter à Dieu un caractère qui ressemble à celui de l'humain. Anthropo veut dire homme, morphis, forme. Donc, tu attribues à Dieu une forme, comme si nous, on se souvient des choses. Hein. Mais Dieu, pour lui, tout est toujours présent en tout temps, du passé, du présent, de l'avenir. Il est omniscient. Alors, il ne peut pas avoir oublié, puis à un moment donné, « Ah, c'est vrai, j'avais fait ça pour... je me souviens maintenant. » Alors, c'est plus une expression, un anthropomorphisme, pour indiquer la compassion divine aussi bien que sa grâce. Le verbe hébreu, moi je trouve ça intéressant quand on regarde les commentaires des personnes qui connaissent vraiment l'hébreu, qui maîtrisent l'hébreu, parce qu'ils voient des choses que parfois c'est très difficile à traduire avec des mots dans une autre langue. Et le verbe hébreu pour souvenir, si on le traduisait littéralement, en anglais, ce serait « And he is being mindful » ou en français « Et il étant soucieux ». Si on le traduirait, là, alors ça véhicule plus l'idée de la grâce, ça véhicule plus l'idée de la compassion « Et étant soucieux, garde à l'esprit tout ce qui s'est passé ». Parce que les Écritures nous disent qu'il a passé 371 jours là-dedans. Il était là-dedans avec les animaux, ça ballottait l'eau. Et 371 jours, pour un être humain, ça peut être long. Alors, il pouvait y avoir une tentation de la part de Noé. Coudonc, Dieu nous a-tu oublié? Alors ici, ça dit que Dieu est toujours soucieux des relations qu'il a avec ses élus, avec sa créature. Dieu n'oublie jamais. On a un verset dans Ésaïe 49 qui nous parle de cette notion-là, versets 15 et 16. Ça dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » C'est en train de dire, les femmes, dans la très, 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 très grande généralité des femmes, à moins d'une perverse épouvantablement, va être préoccupée par le fruit de ses entrailles. Elle va le nourrir, elle va le protéger, elle va l'aimer. Mais le Seigneur, il dit, autant c'est naturel pour la femme de s'occuper de son enfant, même si ça peut arriver qu'il y ait une exception qui, elle, l'oublierait, moi, je ne l'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Il parle à un sauvé. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Alors, si on est gravé sur les mains du Seigneur, il ne nous oublie jamais. Mais n'est-ce pas que quand on est dans l'épreuve, quand on est dans les difficultés, quand on est dans les afflictions, on peut, et on le fait, malheureusement, on peut penser, coudonc, le Seigneur m'a-tu oublié? Il se rappelle-tu que je suis encore là? Il sait-tu que je souffre ou il ne sait pas? Voyons donc. À ce moment-là, il faut vraiment retomber deux pieds à terre. Il faut toujours remettre se souvenir que qu'est-ce que les Écritures déclarent et non pas se laisser aller à sombrer dans nos mauvaises interprétations. Alors, pour Noé, sans doute que le souci divin était le bienvenu. Il était rempli de miséricorde et rempli aussi de condescendance. J'imagine que tant t'es 365 jours à te faire balloter, puis le Seigneur t'a pas dit combien de temps ça durerait. Quand l'arche atterrit, tu dois te dire, « Wow, je suis content que ça arrête, là. » Et là, tu dois te dire, « Quand est-ce qu'elle va diminuer, l'eau, là? » Et là, il doit y avoir toutes sortes de séries de questions qui doivent te poser dans ta tête. Alors, si Noé avait eu des doutes, on va voir qu'avec le temps, il a fini par agir correctement. On va le voir qu'il a agi correctement de plusieurs manières. Et ça nous donne des leçons à nous sur quand Dieu nous fait traverser des épreuves, comment on doit les vivre. Parce que Noé nous donne des leçons sérieuses. Par exemple, il n'a jamais agi de son propre chef. Il a toujours attendu que le Seigneur lui commande de faire telle et telle chose. Il n'est pas sorti tout seul de l'arche. Il a attendu que le Seigneur dise « Sors ». Il s'était passé 371 jours que le Seigneur ne lui avait pas parlé. Il lui avait dit au début « Entre dans l'arche ». Et là, le Seigneur va reparler, il va dire « Maintenant, sors ». Alors, dans la tête d'un être humain, quand Dieu parle pas, tu sais, des fois, quand on parle des épreuves, souvent, j'ai lu ça dans les biographies de grands saints. Ils nous disent que quand ils ont des épreuves intenses, ils disent « Le ciel me semble d'airain ». C'est comme si tu avais un toit, là, puis c'est de l'airain, c'est le métal le plus dur. Alors, c'est comme si la communication entre le Très-Haut et toi, ça passe plus. Tu as l'impression que c'est ça que ça fait. Le ciel est d'airain. Mais il ne faut pas penser que quand on vit quelque chose de semblable, qu'on est le premier qui vit ça. Là. Il y a eu plein de monde avant nous qui ont vécu ça. Alors, le Seigneur nous montre aussi sa miséricorde ici en nous précisant que sa miséricorde s'étend non seulement à Noé, à sa femme, à ses trois fils et à leurs épouses, mais également au bétail et à tous les animaux. Alors, le souci divin est universel, toute sa création, et il est aussi minutieux. Même les petites créatures qui avaient permis qu'il rentre, tout. Le Seigneur se soucie, un peu comme quand le Seigneur dit dans Matthieu, il n'y a pas un moineau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Alors, il a le contrôle absolu sur toute chose. C'est drôle de penser ça, des fois on voit des fourmis à terre, on voit des papillons, on voit plein de choses. Quand Ésaïe a vu le Seigneur, il dit « Toute la terre est remplie de sa gloire. » La gloire de Dieu, c'est la manifestation de chacun de ses attributs. Ça veut dire que quand on regarde quelque chose que ce soit de la terre, on peut voir un attribut de Dieu là-dedans. La beauté, l'harmonie, la couleur, il y a plein de choses. Tout révèle Dieu dans la nature. Si on est vraiment observateur, Seigneur, il dit souvent, regardez les lys des champs. Va vers la fourmi paresseux. Autrement dit, la nature est un grand livre de théologie, jusqu'à un certain point, et un grand livre aussi de pédagogie. On apprend énormément de choses juste en observant la nature. Donc, le verset 1a, c'est vraiment des actes de grâce. Mais le verset 1b, aller jusqu'au verset 3, c'est des actes de puissance. Donc, dans le premier verset, on voit la grâce. Dans le verset 1b, donc la dernière partie du verset 1, et aller jusqu'au verset 3, et ça dit, « Et Dieu, et le mot Dieu, c'est encore une fois Elohim. » C'est Elohim qui déploie son infinie puissance. Il dit, Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'arrêtèrent. Alors, j'imagine que ça devait être un vent d'une grande puissance. Noé était dans l'arche, mais il fallait que le vent soit très fort pour pouvoir pousser cette masse considérable d'eau. Le vent devait être très fort. Mais pour le Seigneur, c'est comme... pas plus forçant comme moi faire ça. C'est comme... Alors, les sources de l'abîme et les bondes des cieux se fermèrent et la pluie fut retenue des cieux. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, elles allèrent se retirant et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Ça a été long. Le Seigneur aurait pu le faire instantanément. Il a voulu que ça se fasse. Mais imaginez, la terre, les sources, c'est la croûte terrestre sous-marine qui avait ouvert. J'imagine que ça ne devait pas être une ouverture de 6 pouces. Là. Ça devait être énorme. Et ça devait être sur des distances assez considérables pour que ça se répande sur toute la terre. Fermez ça. On imagine Dieu juste en disant « ferme-toi ». Il me semble qu'on entend même le mouvement. Ça revenait à sa place. La puissance de Dieu. La même chose pour les... Il y avait eu des pluies torrentielles pendant 40 jours et 40 nuits. Les bondes, il dit qu'il a fermé les écluses des cieux. On imagine encore la puissance de Dieu pour être capable de faire de pareilles choses. La puissance pour les ouvrir, la puissance pour les fermer. On voit vraiment des actes de puissance dans les trois premiers versets. Alors, c'est vraiment ici l'omnipotence divine qui se déploie devant nous. On constate d'abord le fait que le Seigneur commande au vent et permet que celui-ci soit assez fort pour faire reculer cette masse gigantesque d'eau. Alors, pouvons-nous vraiment imaginer la force nécessaire pour fermer les sources de l'abîme et les écluses des cieux? J'avoue que quand on lit les versets, on est rapide un peu. On lit, prend deux secondes de lire ça, mais on ne s'arrête pas. La méditation, quand on parle de méditation des Écritures, c'est de s'arrêter, d'essayer d'aller chercher des sens qu'on n'a peut-être pas compris. Les commentateurs, souvent, surtout ceux qui ont une connaissance de la langue originale profonde, comme John Gill et d'autres, et là, tu découvres des affaires. Waouh! Là, il te fait voir des affaires. Il me semble que, j'imagine, tu sais, la croûte terrestre, là, on parle d'un globe, là, on parle de 25 000 kilomètres de circonférence. Quand ça l'a ouvert, là, c'était énorme, ça, là. La puissance nécessaire de Dieu, juste par sa pensée, ferme-toi. Et ça se ferme. Pas trop pire, hein? Pas trop pire. Ça prend une puissance extraordinaire. Et, non seulement le Seigneur ferme la croûte sous-marine de la terre et il arrête complètement les pluies torrentielles, mais le Seigneur commande un mouvement de recul et de diminution. Parce que quand on regarde tout le verset 3, les eaux s'arrêtèrent, diminuèrent, reculèrent, c'est vraiment un commandement divin de recul des choses. Alors, il y a eu un mouvement pour tout imposer ces choses-là, et là, le Seigneur impose un recul qui se fait lentement. Il se fait au rythme que lui a décidé que ça se faisait. Il aurait pu le faire bien plus rapide que ça, mais peut-être que ça n'aurait pas été bon pour me nourrir. Sans doute qu'il y a de la miséricorde encore là-dedans. Même dans l'exercice de sa puissance, le Seigneur le fait d'une façon à ne pas terroriser les hommes. Parce que si ça aurait été d'un coup sec, imaginez-vous, 15 coudées au-dessus, puis d'un coup sec, l'arche serait corrompue. Ben là, ça se fait d'une façon graduelle. Alors, on a des actes de restauration. Le Seigneur a aussi un contrôle sur le temps. Exactement le temps que tout ça durerait. Je l'ai fait, le tableau, dans ceux qui voudront l'avoir, je pourrais vous le donner. Le tableau, pourquoi on arrive à 371 jours? Ça prend vraiment du monde qui s'arrête, qui observe et qui font un tableau. Ils disent, bon, ici, ça mentionne 150 jours. Ici, ça mentionne 3 fois 7 jours. Ici, ça mentionne qu'il a ouvert le toit après 40 jours. Ici, ça mentionne... Lequel d'entre nous a déjà assez étudié les Écritures pour être capable d'arriver à une pareille conclusion de par lui-même? Ça nous donne des leçons que les Écritures se doivent d'être lues, se doivent d'être écoutées, se doivent d'être étudiées, se doivent d'être méditées. Ce qu'on ne fait pas toujours assez. Parce que plus on le fait, plus on découvre des merveilles dans les Saintes Écritures. Alors, versets 4 et 5, c'est des actes de restauration. Verset 1a, des actes de grâce. Verset 1b à 3, des actes de puissance. Et versets 4 et 5, des actes de restauration. Là, c'est intéressant, parce qu'on l'avait déjà mentionné dans notre leçon la semaine dernière, les dates dans les Écritures, les chiffres dans les Écritures sont extrêmement riches. Et ils révèlent toujours des choses extraordinaires. Comme là, ça dit le 17e jour du mois, donc c'était le 17 du 7e mois juif, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Donc, voyez-vous, on peut voir quelque chose. Le 17 du 7e mois, l'arche est arrêtée, mais les eaux allèrent et diminuèrent jusqu'au 10e mois. Donc, ça a pris 3 mois avant que ça commence à baisser. Le Seigneur a voulu que ça se fasse de cette façon-là. Ça se fait graduel. Et lui, dans l'arche, Noé, il va se dire, « Hey, quand est-ce qu'elle va descendre l'eau? On ne sera pas capable d'aller vivre là. Il faut que ça baisse. » Alors, le Seigneur l'a fait tranquillement pour que... Et là, c'est-à-dire, les versets 5 allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. J'avoue que j'ai fait un exercice pour essayer d'aller voir c'est quoi le dixième mois et tout cela pour essayer de découvrir un autre sens, un peu comme la découverte que j'ai faite que la date dont on mentionne, le 17 du septième mois, correspondait à la date de la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël et aussi à la date de la résurrection du Christ. Très fort symbole, extrêmement fort. Je me suis dit, peut-être qu'il y en a un. Et là, je me suis mis à regarder avec les outils que j'ai pour essayer de voir si je ne pouvais pas avoir une autre signification dans l'autre chiffre. Le Seigneur ne mentionne pas ces chiffres-là pour rien. Et j'ai vu que les commentateurs ne s'accordaient pas sur quel mois ça pouvait correspondre. Et là, j'ai dit, ah, je n'ai pas les outils pour aller fouiller là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause je ne l'ai pas découvert, qu'il n'y a pas quelque chose là. Il doit fort probablement y avoir quelque chose là. Alors, les Saintes Écritures sont d'une infinie richesse et sagesse. On sait, par le verset 11 du chapitre 7, que le déluge débuta le 17 du mois de Marchesvan. Marchesvan, c'est le mois hébreu qui correspond au deuxième mois du calendrier civil des Juifs, qui correspondait au 17 novembre 1656. 1656 ans après le début de la création est arrivé le déluge. Le Seigneur nous indique ici une autre date dans les phases du déroulement du déluge. Le verset 4 du chapitre 8 nous indique que l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat le 17e jour du 7e mois. Comment ne pas s'émerveiller devant ce fait hautement significatif? Le 17 d'Abib, des fois les Juifs ont changé de nom, ça, je ne sais pas pourquoi, là. Sans doute qu'il y a des réponses à ça aussi. Le 17 d'Abib ou de Nissan, le 17 de Nissan, correspond à la date de la traversée de la mer Rouge par les Juifs. On sait qu'ils sortaient du pays d'Égypte, ils étaient face à des montagnes, il y avait l'armée en arrière d'eux autres, des montagnes de chaque côté, ils ne pouvaient pas s'enfuir ni à droite ni à gauche, et il y avait la mer devant eux. Et là, Dieu a fait le miracle d'ouvrir les eaux et de permettre que le peuple passe. C'est très, très hautement significatif, symbolique du salut. Quand le Seigneur décide qu'on passe, on passe. L'endroit choisi par le Seigneur pour l'arrêt de l'arche est fort significatif aussi. J'ai trouvé le propos d'une personne qui affirme avoir vu ces lieux-là dans les commentateurs. Je vais vous le dire en anglais, mais il n'est pas très long, puis je vais vous le traduire tout de suite après. Il dit, il parle du mont Ararat, il parle de l'endroit où l'arche aurait atterri, on pourrait dire, s'est arrêté. Il dit, et ce sera un témoin visuel, il dit, « Nothing can be more beautiful than its shape, more awful than its height. All surrounding mountains sink into insignificance when compared to it. It is perfect in all its parts. Everything is in harmony, and all contributes to render it one of the sublimest objects in nature. » Alors, on va la traduire. Rien ne peut être plus magnifique que sa forme, plus imposante que sa hauteur. Là, il parle, il dit, « Toutes les montagnes environnantes sombrent dans l'insignifiance si nous les comparons. » Un hasard que le Seigneur a fait que c'était sur, que c'est haut, que c'est imposant, que c'est visible par tous. Et après ça, ça dit, « Elle est parfaite dans toutes ses parties. Tout est dans l'harmonie et tout contribue à la rendre un des objets les plus sublimes de la nature. » Et là, il mentionne la source. Quel homme a dit ça? Dans quel livre? Je trouve ça intéressant que même l'aspect physique de l'endroit où le Seigneur a permis que l'arche s'arrête soit d'une vue imposante comme ça. Quelque chose de majestueux, quelque chose d'impressionnant. Il y a quelque chose, je pense que le Seigneur parlait aussi même par ce moyen-là. Et le verset 5 nous instruit sur le fait que Noé comprit que le niveau d'eau avait baissé de 15 coudées. Parce que pour te rendre compte que t'as atterri, il fallait que déjà l'eau ait baissé de 15 coudées parce qu'elle était de 15 coudées au-dessus. Alors, si déjà tu te rends compte que tu peux voir que l'arche s'est arrêtée sur une montagne, il faut quelque part que tu saches qu'il y avait 15 coudées et qu'elle a baissé. Chose intéressante, c'est que ceux qui parlent de ce mont-là, ils ont donné un nom. Je ne l'ai pas noté parce que je me suis dit... Mais ils disent que ce mont-là aurait 16 254 pieds de hauteur. C'est un mont. Alors, il se trouverait, si, d'après les commentateurs, dans l'Arménie actuelle, donc ça se trouve à l'est de la Turquie, au sud de la Russie et au nord de l'Iran. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent sur toutes sortes de personnes qui ont voyagé, qui ont affirmé le voir. Et tout cela, je crois bien que ça prendrait vraiment un gars qui s'attelle à ça. Aller chercher toute cette information-là, rassembler ça, colliger ça, mettre de l'ordre là-dedans. À quelque part, ça serait difficile. Il y en a plusieurs qui affirment l'avoir vu. En tout cas, ça, c'est pas biblique comme tel. C'est des êtres humains qui affirment des choses. On va aller au verset 6 à 14. Donc, on a vu que le Seigneur est au contrôle dans sa création. Et maintenant, on va le voir qu'il est au contrôle dans ses voies. On va le voir parce qu'il fait des actes de révélation. On parle souvent d'un acte de révélation. Quand quelqu'un prenait des photos anciennement, il y avait des bains d'acide, on se rempait ça là-dedans, et l'image se révélait à force, à un certain moment donné, là, le liquide faisait son effet sur... Et ça apparaissait. Je me souviens d'avoir vu ça dans des films. Je l'ai même vu dans la réalité. Quelqu'un faire ça, j'étais à côté. Et révéler, ça veut dire que Dieu permet que des choses qui n'étaient pas visibles commencent à se manifester. Verset 6 à 10, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avait diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, il la lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Il y a deux chiffres importants qu'on peut les lire, puis on ne peut pas nécessairement s'arrêter à leur signification. Tu as le chiffre 7, qui est répété à plusieurs reprises, et tu as le chiffre 40, qui, c'est pas la première fois qu'on parle de 40 jours. Plus 40 jours, 40 nuits, et ici, 40 jours avant qu'il ouvre la fenêtre. Alors, on avait déjà mentionné que le chiffre 40 dans la Bible symbolise souvent une période d'épreuve se terminant par la victoire du bien et la ruine du mal. Il rouvre la fenêtre, on voit que le bien a fait, Dieu a fait son travail, et c'est une victoire sur le mal, parce que le mal que Dieu déclarait, que la terre était remplie de mal, est disparu. Donc, on a le temps d'épreuve pour Noé, mais on a aussi cette victoire du bien, cette ruine du mal. Quant au chiffre 7, on sait que souvent, il exprime la plénitude et la perfection. Et on n'est pas sans se rappeler, on a lu ce matin dans Deutéronome 5, le jour du sabbat était le septième jour. Alors, ça arrive que les mentions du septième jour, plusieurs pensent que c'était des allusions au sabbat lui-même. Alors, l'observation du sabbat que Noé, déjà, dans les mœurs des patriarches, l'observation du sabbat était déjà inclus dans leur vie, et ils faisaient des choses le jour du sabbat. Alors, c'est intéressant de noter ces choses-là, le chiffre 40, le chiffre 7. Alors, on peut observer que le Seigneur commence à mettre à l'esprit à Noé. Il commence à vouloir enlever le toit. Mais il envoie des. C'est comme s'il voulait se servir de moyen pour vérifier jusqu'où les eaux étaient descendues. Alors, il utilise le corbeau, il utilise. Et on voit que tout ce. Le corbeau, on sait que c'est un animal qui se nourrit, c'est un charognard. Alors, il dit qu'il allait, il revenait, il allait, il revenait. Mais il n'est jamais revenu dans l'arche. Juste la colombe l'a fait. Alors, souvent, certains commentateurs ont vu à l'intérieur de ça, c'était comme si le corbeau était une image de notre vieille nature. Elle se nourrit de choses mortes. Alors que souvent, c'est un symbole universel que la colombe avec la branche d'olivier entre dans le bec, ça représente la paix, ça représente l'harmonie et ça représente d'autres valeurs chrétiennes également. Alors, bien sûr que durant tout ce moment-là, les temps qui sont mentionnés là-dedans, il a fallu que Noé fasse preuve vraiment de beaucoup de patience. Alors, le symbolisme des deux oiseaux, c'est significatif. Le corbeau est un oiseau de proie impur. Souvent, quand on va voir dans Lévitique, le corbeau est considéré comme un animal impur, tandis que la colombe est considérée comme un animal pur. À quelque part, tout le symbolisme que l'animal impur allait, revenait, mais il n'est jamais revenu dans l'arche. Mais la colombe, elle, est revenue dans l'arche. Alors, bien sûr, on sait que sa couleur aussi, la couleur du corbeau, c'est noir. On sait que son croassement, quand on entend un croassement de corneille ou de. Pas vraiment intéressant comme son, désagréable. Alors, certains auteurs ont vu un symbole de la nature charnelle qui demeure dans l'élu, même après son salut. Quant à la colombe, nous savons qu'elle est un oiseau pur. Elle continue de symboliser la paix, la douceur et la pureté. La colombe, contrairement au corbeau, a retourné dans l'arche auprès de Noé. Il y a des actes d'illumination aussi dans le verset 11 et 12. Donc, Dieu fait des actes de révélation. Il permet que déjà Noé est capable d'observer, même visuellement, qu'il se passe quelque chose, que c'est en train de se rétablir. Mais le verset 11 à 12, c'est vraiment des actes d'illumination. Parce que la colombe, ça dit dans le verset 11, la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Voyez-vous, Dieu se sert de moyens pour montrer à Noé par des gestes et illumine sa compréhension. Si elle a une branche d'olivier, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à se rétablir sur la terre. Et ça dit, il attendit encore 7 jours, lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alors, ces versets-là nous enseignent que le Seigneur se sert de moyens et de signaux pour nous indiquer la fin d'un temps d'épreuve. Souvent, il va nous montrer que ça achève par toutes sortes de petits moyens ici et là. Et il y a aussi des actes qu'on pourrait dire dans le verset 13 et 14 de sécurisation. Le Seigneur veut sécuriser son serviteur. Et là, ça dit l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Encore là, je vous dis, on a parlé du 17 mars de Nissan. Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui se met à étudier juste les dates, puis qui se met à faire des comparaisons avec le Nouveau Testament, il doit y avoir encore là des trésors. J'en suis convaincu. Alors, on imagine la joie et le sentiment de sécurité qu'a dû éprouver Noé et sa famille lorsqu'ils ont collectivement constaté que le moment de la sortie de l'arche approchait. Imagine que tu étais là-dedans 371 jours et que là, tu vois, ben, on était à veille de sortir. Tu dois vraiment être content. Alors, la précision des dates est étonnante parce que là-dedans, on est porté à lire ça superficiellement. On ne porte pas nécessairement attention, mais je suis pleinement convaincu que toutes ces dates-là sont hautement significatives et ont fort probablement des relations avec l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors, on donne ici, par les Écritures, la durée du séjour de Noé dans l'arche. J'ai fait un petit tableau. Je vais le faire rapidement, mais si jamais ça vous intéresse, là, on a le tableau et on a les dates qui sont mentionnées, les temps qui sont mentionnés. Et pourquoi on peut affirmer qu'il a demeuré là-dedans 56 jours? Début du déluge, 17 du mois de Marchesvent. Pluie pendant 40 jours. Les eaux ont continué à grossir. Au bout de 150 jours, il y a des chiffres. Et je l'ai fait, l'exercice, j'ai pris ma petite calculatrice, j'ai fait 40 plus 150 plus 74 plus 40 plus 3 périodes de séjour plus 29 jours avant qu'il envoie la colombe plus 56 jours d'attente avant qu'il sorte sa famille. Ça donne exactement 371 jours d'habitation dans l'arche, soit 12 mois de 30 jours. Pour les Juifs, les mois, c'est des mois lunaires, donc des mois de 30 jours, plus 11 jours. Encore là, un an complet, un an complet selon les Juifs, plus 11 jours. Je vous l'ai dit, j'ai fouillé, je n'ai pas pu trouver, mais je suis convaincu qu'il y a de quoi dans ces dates-là. Autant, s'il y en avait de quoi dans celui de 17 de Nissan, il doit y en avoir dans ces dates-là également. Alors, on voit aussi à partir du verset 15 que le Seigneur est au contrôle dans ses miséricordes. Il y a beaucoup de miséricorde dans l'intérieur de tout ce chapitre-là. Et il le fait par des actes d'expression. Il va exprimer sa miséricorde à ses serviteurs par des moyens. Alors, dans le verset 15, l'acte de miséricorde, Dieu te parle directement. C'est-tu assez miséricordieux à ton goût, ça? Alors, Dieu parla à Noé en disant... Excusez-moi, il faut que je prenne un peu d'eau. En disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre. C'est comme... Il l'avait déjà dit au début de la création. C'était à l'idée que le Seigneur voulait qu'il se répande sur la terre, qu'il soit fécond et multiplie sur la terre. Alors, le Seigneur recommence à s'exprimer verbalement au verset 15 et il le fait de façon très claire à son serviteur. Dans Genèse 7, 1, le Seigneur avait dit, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche. » Verset 8, 16, le Seigneur dit, « Sors. » de l'arche. C'est-tu beau? Le Seigneur lui-même qui indique à son serviteur que le moment est venu de sortir. Noé, bien entendu, a patiemment attendu que Dieu lui dise expressément de sortir. Il ne prit pas les devants, mais il attendit le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Est-ce qu'il y a une leçon ici concernant le temps des épreuves qu'on peut avoir dans nos vies? Ben oui! Il y en a un temps, parce que ça nous dit qu'il faut attendre patiemment les temps de Dieu. C'est Dieu qui contrôle les temps. Quand ça commence, c'est Dieu qui décide quand est-ce que ça se finit. Et si on essaie d'aller au-devant de Dieu, c'est sûr qu'on va se cogner le nez sur la porte, comme on dit. Alors, il faut attendre. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Ça, c'est pour nous, c'est bien difficile à comprendre ça. On voudrait que nous, quand on est prêt, on veut sortir. Lui dit non, c'est pas fini. J'ai encore quelque chose à te montrer. Et il se rend jusqu'au bout. Et c'est ça qui est beau de voir, même dans le comportement de Noé face à sortir de l'arche, il y a des leçons pour notre propre vie de tous les jours. Alors, le Seigneur informe son serviteur et sa famille que le temps du rétablissement et de la restauration est arrivé, est maintenant arrivé. La vie va recommencer comme elle était auparavant. Et les versets 18 et 19 sont des actes de conscientisation. Donc, 15 à 17, c'est des actes d'expression. Dieu s'exprime, mais des actes de conscientisation, 18 et 19. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Bien entendu, je pense que la première chose que Noé a dû voir quand il est sorti, c'est l'ampleur du phénomène qui venait de se terminer, de se passer. Il devait y avoir énormément de bouleversements. Ça a pris certainement un certain temps avant que tout redevienne comme avant. Alors, il a dû voir visuellement, constater l'ampleur de la catastrophe à laquelle ils avaient échappé. Il a très certainement vu les choses suivantes. La sévérité du Seigneur envers le péché. Quand tu vois tout ça autour de toi, tous ces bouleversements, tu vois que quand le Seigneur dit « considérer la bonté et la sévérité de Dieu », il faut que tu considères « oui, il est bon, mais oui, il est aussi sévère ». Il a dû constater aussi l'ampleur de la grâce qui est pleinement révélée. Le fait que, oui, il avait obéi à Dieu et qu'en sortant, maintenant la vie était pour se rétablir comme avant, il a très certainement dû apprécier qu'est-ce que c'était une grâce divine. Commencer aussi à apprécier la jouissance du salut obtenu. Il l'a eu, il sort. C'est un peu comme l'image que nous, on est en Christ et qu'un jour, on va sortir et on va récupérer notre corps ressuscité et on va, si on veut, atterrir dans le ciel. Et c'est très certainement qu'on va avoir des sentiments semblables à ceux de Noé. Aussi, fut-il pleinement préparé, en regardant tout ça, à exprimer sa gratitude au Seigneur. Les versets 20 à 22, des actes de bénédiction. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et vous, je n'ai pas vérifié, mais je pense bien que l'Éternel, ici, si on met le mot éternel, ça doit être Jéhovah. Alors, Elohim qui agit quand c'est de la puissance, Jéhovah qui agit quand il s'agit de la relation entre l'élu et son créateur. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes. Quand on offre un holocauste, on offre un sacrifice complet, un sacrifice qui est brûlé dans sa totalité. Et, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Selon vous, est-ce que ça veut dire que à cause que les animaux offerts en sacrifice avaient été offerts brûlés complètement, que le Seigneur aime cette odeur-là? Est-ce que vous croyez que ça veut dire ça?
Non.
OK. Alors l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Il est en train de dire... Je sais que le mal va recommencer, mais je vous dis le cadre de temps que ça va prendre pour arriver à l'arrivée du Messie, je le donne. Parce qu'il dit, encore là, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises à sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Autrement dit, il ne provoquera plus de déluge, comme je l'ai fait. Et là, il lui donne le sang. Les anglophones, ils appellent ça, quand ils parlent de l'Alliance, « the framework, time framework ». C'est comme le Seigneur donne un cadre, le cadre temporel pour... Il garantit le cadre temporel de l'arrivée du Messie en lui disant « tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la succession des choses, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point. » Il est en train de dire, c'est comme, quand on parle des alliances, il y a l'alliance qu'on appelle Noéique. Noéique, c'est vraiment, je pense que c'est l'expression par Dieu qu'il accorde le cadre temporel. Autrement dit, il est en train de dire, « Je ne détruirai plus malgré la méchanceté des hommes jusqu'à l'arrivée du Messie. » Après, c'est une autre affaire. Alors, ce passage, bien entendu, quand on parle de c'est fortement christocentrique. Noé exprime sa foi au Messie à venir par le sacrifice. Alors, on comprend que l'humilité de Noé, sa reconnaissance, son adoration et la dépendance qu'il exprime à Dieu sont basées sur le sacrifice. Noé offre son sacrifice à Jéhovah, verset 20, le Dieu de l'Alliance. Alors, ce christocentrisme est la base des bénédictions de Jéhovah. Pourquoi Dieu dit qu'il va accorder ce temps-là? Parce que tout est centré sur le symbolisme du sacrifice qui s'exprime, mais qui fait référence au Messie à venir plus tard. Alors, il rassure Noé que le signe, qu'il n'interviendra plus de cette façon jusqu'à l'autre jugement par le feu. Le signe est la perpétuation et la succession des saisons et des jours et des nuits. Alors, quelles sont les applications? J'en ai trouvé 9, je vais les faire rapidement. 9 applications qu'on peut retirer, des leçons, des principes à appliquer à notre propre vie. Première application, malgré les épreuves, Dieu ne nous oublie jamais. Deuxième application, dans nos afflictions, c'est lui qui blesse et qui guérit. Comme Noé, notre délivrance est graduelle, directionnelle et observable. Troisième application, Dieu a le contrôle absolu sur la nature et les éléments. Apprenons donc le contentement. Peu importe ce que Dieu nous envoie, des jours pluvieux, des jours pleins de neige, on a donc de la misère avec le contentement. Hein? C'est un fait, hein? On le sait, on connaît notre cœur, le temps de le dire, on est mécontent. Mais on le sait, le Seigneur est au contrôle de façon absolue là-dessus. On devrait recevoir tout ce que le Seigneur envoie comme température, toujours avec joie. Parce que il est au contrôle. C'est lui qui a décidé que c'était comme ça. La quatrième application, comme l'arche reposait sur une haute montagne, nous reposons aussi sur haute montagne, le Christ lui-même. Cinquième application, les temps et les endroits pour le repos et la délivrance sont dans les mains du Seigneur. C'est lui qui décide du début, c'est lui qui décide de la fin. Sixième, les miséricordes recouvrées sont plus appréciées que celles reçues constamment. Qu'est-ce que je veux dire? La santé. Si vous perdez la santé, puis vous la recouvrez, vous allez plus l'apprécier que si vous l'avez eu toute votre vie. N'est-ce pas que c'est vrai, ça? Et la septième, Dieu considère notre bien avant notre désir. La huitième, Dieu n'est jamais en retard. Et la dernière, les jugements extérieurs, même très sévères, ne changent pas l'homme. Que le Seigneur nous donne de comprendre et appliquer ces choses dans nos vies pour notre plus grand bien et pour sa plus grande gloire.